L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. L'Institut Montparnasse et Sciences Po Grenoble UGA ont organisé une rencontre à destination des étudiants autour de l'économie sociale et solidaire, perçue comme un acteur majeur des transitions. Dans un contexte de crise multiple, démocratique, politique, économique, écologique, quel rôle joue ou peut jouer l'économie sociale et solidaire ? Comment ces organisations diverses peuvent-elles relever les défis du présent et de l'avenir ? Pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'économie sociale et solidaire du bassin grenoblois. Nous les retrouvons dans les épisodes 43, 44 et 45 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Bonjour Simon Mirouze.
Bonjour.
Vous êtes directeur général délégué du groupe Envie Rhône-Alpes. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire de ce groupe qui, je crois, est né dans les années 80 ?
Ce sont ses racines qui se trouvent dans les années 80, puisque le groupe Environ-Alpes appartient à un réseau bien plus large que ses activités sur le bassin de la région Rhône-Alpes. Il est né à Strasbourg, ce réseau Envie, grâce à la rencontre entre la communauté Emmaüs locale et des dirigeants des activités de Darty. Voilà. Le but étant initialement de remettre à l'emploi des personnes en situation de fragilité ou d'exclusion par le reconditionnement d'électroménagers. Donc ça avait lieu dans les années 80. Et c'est comme ça qu'est né le réseau Envie, qui a très rapidement, comme on dit aujourd'hui, fait la preuve de ce concept, puis essaimé nationalement, où aujourd'hui le réseau Envie est composé d'une cinquantaine d'entreprises qui représentent un peu plus de 3000 salariés pour 2500 personnes équivalent temps plein qui sont en parcours d'insertion. Donc voilà, Environ-Alpes appartient à ce réseau Envie et donc du coup est une entreprise autonome sur le territoire Rhône-Alpes. Donc on est nous-mêmes un groupement d'entreprises d'insertion, puisque la spécificité du réseau Envie est d'être agréé aussi par le ministère du Travail en tant qu'entreprise d'insertion, dont notre première finalité est bien l'insertion par l'activité économique sur lequel on a développé des métiers supports sur les secteurs de l'économie circulaire.
D'accord. Alors avant de rentrer dans le détail de cette activité d'économie ou sur l'économie circulaire, j'aimerais savoir à qui s'adresse par ces services le groupe Envie.
Le premier service qu'on propose, c'est les services de pouvoir mettre à l'emploi des personnes qui sont en situation d'exclusion par rapport au marché du travail. Après, tout ça trouve un socle d'une activité économique. On s'est lancé, le réseau Envie, et a un point commun partout en France, c'est cette activité de reconditionnement d'appareils électroménagers. Donc en effet, on a différents ateliers en France et en Rhône-Alpes, on en a un à Saint-Étienne, à Lyon et on vient d'ouvrir à Grenoble, sur lequel il s'agit de reconditionner des appareils dits en fin de vie pour leur donner une seconde vie et qu'on l'on regarantit. Donc ces matériels-là, essentiellement du gros électroménager, sont revendus pour le coup à du grand public par internet et via des magasins physiques. Ça a été le premier tronçon depuis les années 80 de l'activité Envie, et cette activité qu'on ne qualifiait peut-être pas à l'époque de réemploi ou de reconditionnement, lorsque la réglementation européenne s'est mise en place sur le principe du pollueur-payeur, donc de la responsabilité élargie du producteur dans la déclinaison de la loi française, ben Envie a déjà à l'époque, donc entre 2001 et 2005, fait un plaidoyer pour que la loi française, notamment sur la filière des déchets électronique et électroménager, prévoit le maintien d'une filière de réemploi et donc une bifurcation dans cette chaîne logistique qui est imposée aux fabricants et aux distributeurs de reprendre à leur charge la fin de vie du produit qu'ils avaient mis sur le marché. Et donc in fine, nous nous sommes positionnés sur ce marché du réemploi s'est structuré, et par la même occasion ça nous a permis de déployer d'autres métiers toujours dans des vocations d'insertion, sur les métiers de la logistique, puisqu'in fine, il faut les collecter, ces matériels en fin de vie, et du recyclage, puisqu'on opère et on gère différentes chaînes de recyclage, notamment de démantèlement de tout ce qui est écran et téléviseur.
D'accord. Donc, je reviens à ma question initiale. Donc, vous répondez, enfin, vous offrez un service in fine aux consommateurs, on est bien d'accord, mais vous travaillez aussi pour des entreprises.
Alors voilà, on occupe toute la chaîne de valeur ou toute la boucle d'économie circulaire du déchet électronique. Aujourd'hui, on adresse aussi d'autres filières, mais que je tairai pour pas complexifier le débat, et puisque beaucoup d'autres filières sont émergentes. Donc en fait, on occupe cette chaîne logistique qui va du dépôt de l'appareil en fin de vie. Donc ces marchés-là sont régulés par des éco-organismes. C'est les fameux collecteurs de notre éco-participation que l'on règle tous en tant que consommateur au moment où on achète un équipement neuf. Donc on opère pour leur compte, donc ce sont des appels d'offres nationaux avec des cahiers des charges très exigeants où on doit collecter sur chaque bassin d'emploi les 5 à 10 000 tonnes qui existent de déchets électroniques. Une fois que ces déchets-là, en fait, c'est une sorte de logistique inversée dont on ne se rend pas compte, c'est la chaîne d'approvisionnement inversée. On s'imagine très bien nos entrepôts Amazon qui nous déversent les quantités de biens ou ne serait-ce que ceux qu'on achète en grande distribution. Il y a toute la logistique inverse à organiser lorsqu'on se sépare d'un appareil, puisque tout ça doit être récolté, massifié, conditionné et rééclaté vers les différents centres de recyclage.
Alors, vous avez prononcé un nom qui est Amazon. La question vient tout de suite naturellement. Vous êtes un opérateur relevant, on va dire, de l'ESS, hein, économie sociale et solidaire. Vous avez donné des chiffres, je peux en ajouter quelques-uns. Donc, 2187 salariés, 52 entreprises d'insertion, 108 000 appareils rénovés chaque année, 200 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Je suis dans le vrai là.
À l'échelle nationale,
On est d'accord. Oui. Voilà. Merci pour la précision. Néanmoins, vous avez un fonctionnement qui n'est pas celui du marché libéral, hein, puisque vous relevez, comme je le disais, de l'économie sociale et solidaire avec une gouvernance et des exigences particulières. Comment vous faites avec cette nature-là, ce fonctionnement-là, face à des entrants tels que Vinted, par exemple, tels que Back Market? Comment vous positionnez-vous? Est-ce que vous vous sentez très concurrencé? C'est ma question.
Il est vrai que c'est assez singulier, puisque mais c'est une partie intégrante du projet, c'est-à-dire faire la preuve qu'il est possible d'entreprendre dans des statuts d'entreprise dont l'intérêt général prime grâce à une gouvernance démocratique et dont le capital et les moyens et les finances ne sont qu'un moyen au service d'un projet social, certes économique, mais aussi écologique. Donc faire la preuve et démontrer que cela peut fonctionner pour engendrer quelques changements de paradigme dont la société a peut-être besoin pour se réinterroger, c'est ce qui est au cœur du projet. Aujourd'hui, on le fait historiquement, presque sans se poser de questions, et guidé par cette finalité et cette vocation depuis les années 80 et des années 90 sur la région Rhône-Alpes. Maintenant, on vit effectivement ces marchés se développant, se solvabilisant, les mœurs évoluant, faisant évoluer les réglementations et les attitudes du législateur, faire entrer de nouveaux entrants qui, pour le coup, n'ont pas cette même partie d'ADN que j'expliquais de choisir à essayer de cultiver équilibre social, environnemental et économique, et donc du coup qui essayent de rentabiliser ces secteurs-là. Globalement, pour répondre à votre question, il s'agit juste de continuer à faire ce qu'on sait faire. Que ça soit vis-à-vis de nos publics qu'on accompagne, que ça soit sur notre capacité à traiter de manière industrielle et à reconditionner de manière industrielle de l'électroménager, que ça soit de savoir collecter dans des conditions de sécurité, dans des sites classés par la DREAL comme des installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà, c'est toujours ces niveaux d'exigence. La question de la concurrence, on doit s'y adapter, mais si on continue à cultiver nos savoir-faire, on devrait s'en sortir.
Alors, il y a beaucoup de questions qui me viennent. Déjà, la première, c'est vous avez un modèle économique qui nécessite que vous fassiez un certain chiffre d'affaires. Est-ce que ce chiffre d'affaires ne peut pas être perturbé justement par ces nouveaux entrants ?
mon propos d'avant, mon manque de pragmatisme et de principe de réalité. Bien sûr qu'on est challengé, qu'il y a un risque que le consommateur aille sur ces solutions plus faciles, plus agiles, plus visibles, voilà, qui ont été lancées à tout simplement à grands coups de capitaux, parce que d'ailleurs ces structures-là qui se lancent dans ces activités-là sont pour le coup purement et simplement de réelles start-up, donc elles ont levé beaucoup de capitaux, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont encore montré qu'elles étaient capables de gagner de l'argent, faut-il se rappeler. Donc pour le moment, ça nous interroge et on observe, et du coup, d'où l'importance d'être fort sur ses fondamentaux. En période de Coupe du Monde de rugby, j'ai le droit d'employer ce genre d'expression.
Et de le faire savoir peut-être.
Et de le faire savoir, et aussi nous-mêmes nous réinterroger sur nos capacités à déployer des stratégies marketing et autres, qui ne nous font pas nous détourner de notre projet, mais qui nous amènent à répondre à l'attente du marché et même plus largement à l'attente de la société en réalité.
Alors, en toute sincérité, comment voyez-vous les 3 prochaines années ? Question difficile.
Alors déjà, on est plusieurs à les voir. Mon avis personnel n'est qu'un avis d'une entreprise que j'allais qualifier d'œuvre collective, qui est celle du réseau Envie, d'Environalp, de sa gouvernance, qui, comme je le disais tout à l'heure, est une gouvernance composée par la société civile, mais aussi quelques investisseurs à impact. Les 3 prochaines années risquent d'être mises à dure épreuve dans notre capacité à démontrer qu'on est capable de changer d'échelle. Voilà.
Mais finalement, c'est une bonne question aussi.
Ah oui. Ça donne envie de mettre le réveil encore plus tôt chaque matin.
Vous êtes en train de nous dire que vous êtes encore plein d'énergie et qu'il y a sans doute effectivement des évolutions à accompagner ou à guider. C'est peut-être mieux, on est plus moteur en ce sens-là. Est-ce que vos équipes sont prêtes à vous suivre ?
Plus largement, la question des équipes, c'est-à-dire partager cette vision-là et attester ou faire vivre le fait qu'Envie ait sa part à faire dans des changements profonds, parce que du coup, il y a une part cachée dans le projet d'Envie qui est aussi la question de reconsidérer l'humain dans des organisations entrepreneuriales, etc., autour de révéler le potentiel de chaque individu, de nos publics en insertion, qu'à nos collègues salariés permanents. C'est ça qui est au cœur du projet, donc on réinterroge beaucoup le projet entrepreneurial via cette approche managériale aussi. Pour le moment, on arrive à trouver ce chemin de crête entre la considération de l'individu, notre responsabilité sociale, maximiser notre impact écologique et être viable. Nous poursuivons cette voie-là, ce chemin de crête, et avec la même énergie.
C'est très bien, la même motivation, je n'en doute pas. Je vous remercie infiniment, Simon Mirou. Je pense qu'on a fait relativement le tour de la question, sauf si il y a un point qui vous semblerait encore important à évoquer.
Non, gardons la motivation intacte.
Très bien, merci infiniment.
Merci à vous.
Merci infiniment à Sciences Po Grenoble UGA d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.